Bienvenue à la French Connection, épisode 158. Cet épisode-ci, je suis avec Vincent.
Salut tout le monde!
Et on en profite pour faire des expérimentations d'enregistrement pour revenir dans une forme de qualité un peu supérieure où on va être capable d'enregistrer chacun des flux individuels de façon justement individuelle et de pouvoir les traiter le niveau sonore équivalent, ce qu'on va avoir j'ose espérer, rehausser la qualité comme on revenait avec les anciennes façons d'enregistrer. Donc ça, c'est un peu un test dans lequel on s'amuse avec ça. Puis pour moi, ben c'est des expérimentations, j'aime bien ça, fait que ça me permet de toucher à des nouvelles technologies d'approche pour faire ce genre de choses. Donc, shameless plug, on est toujours dans le COVID, toujours en déconfinement, mais faites attention, lavez-vous les mains, parce que là, les stats sont en train de monter. J'espère que c'est juste une petite courbe qui est une erreur statistique qu'on est en train de vivre, que c'est pas ce qui devrait se passer ailleurs, parce que les pays européens commencent à reconfiner, recommencer ça, fait que s'il vous plaît, lavez-vous les mains, mettez-vous un masque, je veux pas reconfiner, j'aime pouvoir aller manger juste une tasse une fois de temps en temps. Et ça me fait chier tout le chose. Fait que s'il vous plaît, respectez ça. Sinon, le Slack du Hackfest est toujours disponible si vous voulez jaser. Et les trainings du Hackfest ont été commencés à être annoncés. Donc, dans les choses, vous allez pouvoir accéder à cette information-là pour ce qui va se passer en cyber ce coup-ci sera en téléformation au niveau du Hackfest, puisque c'est la nouvelle façon d'aborder la vie en visioconférence. Commençons avec les nouvelles. La première est la mienne. J'ai trouvé très intéressant, c'est Apple a rendu disponible un iPhone pour les chercheurs en sécurité. Essentiellement, ils ont mis un iPhone modifié qui n'a pas toutes les mesures de sécurité sur lesquelles l'iPhone est. Ça permet, entre autres, aux chercheurs, au lieu d'avoir à jailbreaker un téléphone pour réussir à faire leur travail, c'est de pousser la sécurité du iPhone plus loin et de voir comment casser la technologie qui est mise en place. Ils ont enlevé tous les éléments de sandboxing particuliers, les éléments qui rendent difficile. Et entre autres, ils permettent un shell automatique, ils permettent un certain nombre d'accès directement à la machine, ce qui facilite énormément le travail des chercheurs. Selon les analyses, puis là, c'est des gens à qui j'ai eu un énorme respect au niveau de leur connaissance dans cet univers-là, trouvent qu'effectivement, c'est une belle démarche. Elle est faite d'une façon à ce qu'il faut que quand même on prouve la légitimité de la recherche qu'on veut faire, justement, pour pas que n'importe qui puisse le faire ou que un malveillant puisse accéder à de l'information avant les autres pour pouvoir briser nos téléphones. Pour ceux qui ont des iPhones puis Android, ben là, ça, c'est un autre univers, mais qui a ses problèmes qui lui sont propres. Donc, non, je trouve ça très intéressant, cette ouverture-là sur une compagnie qui était historiquement très obscure tant qu'à l'ouverture sur ce genre de choses-là. Cette ouverture-là, je la trouve fort intéressante puisque ça va, comme je suis un utilisateur d'iPhone, me bénéficier à terme puisque ces recherches-là vont mener nécessairement à une amélioration de la sécurité du système d'exploitation. Puis dans l'ensemble d'analyses que j'ai vues, le seul downside qu'on pourrait voir, c'est que Apple oblige la signature d'une clause NDA qui fait que tu ne peux pas divulguer ce que tu as trouvé à travers ce programme-là. Pour certaines personnes qui sont des plus libertins que d'autres, se sentent peut-être contraints face à ça. Tout comme ceux qui ne veulent pas porter de masque se sentent un peu brimés par le port du masque. Donc, ça va peut-être écarter certaines personnes à ce moment-là.
C'est intéressant. Le téléphone en question, là, on parle d'un appareil. Est-ce qu'ils fournissent une version virtuelle aussi si on veut faire des tests à partir d'un poste de travail pour brasser ça un petit peu plus au lieu d'avoir... au lieu d'être obligé d'acheter un appareil physique, d'avoir une version virtuelle de ça, est-ce que tu sais si c'est possible?
Non, c'est pas possible. C'est vraiment un appareil physique qui loue annuellement. C'est renouvelable. Tu as un bail d'un an avec un appareil qui t'est prêté par Apple, qui est toujours maintenant la dernière version par ailleurs ou dans laquelle il suit les versions qui sont disponibles. Donc, ils ont un certain nombre de critères et de paramètres justement pour éviter l'abus, un peu comme pour contrôler au bout du compte. J'imagine qu'il va y avoir quoi, une centaine ou quelques centaines d'appareils qui vont être diffusés comme ça. Puis ça leur permet de garder un certain degré de contrôle sur ce qui se passe avec ça. Bon, c'est sûr qu'on revient encore, les personnes plus libertines vont dire que oui, mais là, ça brime, on n'est pas capable de faire. Mais en même temps, je peux comprendre qu'ils veulent pas que n'importe qui fasse ça, puisque supposons que des États qui ne sont pas alignés avec nos valeurs occidentales aimeraient mettre la main sur ce genre d'appareil-là et vous nous foutre le bordel. Je comprends la mesure qui est placée face à ça.
Oui, Nicolas, ici, vient de faire mute très rapidement parce que son téléphone n'était pas éteint. Écoute, c'est une nouvelle intéressante. Je trouve ça le fun. Je pense que ça contient quand même des risques de fournir une telle version de ce téléphone-là. Mais écoutez, avec les clauses de confidentialité, une clause de confidentialité, vous êtes comme moi, hein? C'est quelque chose de très virtuel. Ça n'amène pas la prison, ça n'empêche pas les actes malveillants, etc. Mais bon, je pense qu'Apple fait une belle ouverture d'esprit ici, là, nous tend bien la main.
Oui, c'est ça, comme tu dis, c'est un gentleman agreement là, qui se fait entre deux personnes, on sait une compagnie et une personne dans ce cas-ci. Fait que c'est sûr que tout le système est très virtuel, comme tu dis, puis ça devient une vue de l'esprit. Mais en même temps, le respect de ces règles-là assure une certaine stabilité sociale dans laquelle on vit. Il y a une certaine prévisibilité. Fait que, oui, en sécurité, on a tendance à avoir des gens qui aiment beaucoup casser ces règles-là, mais dans la mesure où on les casse de façon contrôlée, comme ce qui nous est permis par Apple dans ce cas-ci, je crois qu'on arrive quand même à une zone relativement correcte qui sert tout le monde, qui sert autant les chercheurs, parce que il faut savoir aussi que ces chercheurs-là, quand ils soumettent ça, sont payés là aussi. Là, fait que s'ils ramassent quelque chose de bien, ils peuvent se faire plusieurs centaines de milliers de dollars par année s'ils ramassent ils trouvent des choses très, très nice. Puis dans le bug bounty d'Apple, si tu as des bugs kernels, puis là, ça va redevenir accessible de faire des bugs kernels parce que l'accès à la machine va permettre ce genre de choses plus facilement. Et je pense qu'ils payent 1 million pour un bug kernel. Donc, il y a quand même un attrait à ce genre-là. Fait que je pense qu'on va. Tout le monde en tire quelque chose. Fait que. Puis là, j'imagine que comme la plateforme était très fermée, les premiers fruits vont être faciles à récolter. Fait que les premières personnes qui vont avoir accès à ces appareils-là vont pouvoir récolter beaucoup de fruits, plus gratis que d'autres, donc vont pouvoir accumuler. Puis si on monte dans 1 ou 2 ans, ben là, la plupart des bugs faciles vont être trouvés. Donc, les fruits vont être beaucoup plus difficiles à récolter et beaucoup plus d'ouvrages. Fait que j'imagine pouvoir avoir une amélioration relativement immédiate. Puis pour puisque Vincent l'a déclaré, oui, le son de mon téléphone était fermé et toujours fermé. C'est juste que j'ai certaines personnes qui passent à travers cette fermeture-là. Donc, j'ai une personne qui passe à travers, qui vient de me texter pendant le podcast, ça va être le bruit de Mario Bros. S'il a été capté, je ne sais pas si ça va passer jusqu'au montage, mais ça a sorti le bruit de Mario Bros.
Drôle de coïncidence. Ça fait 1h42 que Nicolas et moi, on est en ligne, puis qu'on discute, puis on vient de démarrer. Hey, chose intéressante, dis-moi donc, Nick, le téléphone qui te loue, est-ce que le téléphone. Première question, je vais t'envoyer une petite grappe de questions. Au mieux tes connaissances, est-ce que le téléphone est totalement fonctionnel à la base ou c'est plus un mode, on dirait, semi-fonctionnel pour déployer en fait ces fonctionnalités qui, en fait, l'ouverture des fonctionnalités pour faire des recherches, des tests. Deux, les gens qui louent ces téléphones-là justement pour faire des recherches avec la clause de confidentialité, donc j'imagine que le seul lien de communication qu'ils ont pour de la divulgation, c'est avec Apple. Donc, techniquement, ils ne peuvent pas diffuser sur un channel Reddit, un Slack, un n'importe quoi, là, je vais dire, dans l'univers connu, pas l'univers inconnu qu'on connaît sous le Darknet, là, mais est-ce que c'est des gens qui sont intimement liés toujours à Apple avec ce contrat-là? C'est mes deux questions, en fait.
Ben, oui, c'est justement, c'est un des points, c'est le fait que du moment que tu as le dit appareil qui semblerait complet, je me base sur ce que j'ai pu lire. Oui, c'est un appareil complet, qui est déverrouillé. Fait que je pense que la seule différence, c'est comme une version où certaines barrières de sécurité qui empêchent la recherche ont été retirées pour faciliter justement le travail des chercheurs. Donc, ça serait théoriquement un appareil complet. Le problème, c'est justement où tu avais du NDA. C'est une fois que tu es embarqué dans ce processus-là, à ce moment-là, tu dois te soumettre au chemin de divulgation forcé par Apple. Fait que c'est peut-être là où justement où certaines personnes vont hésiter à abonder dans ce chemin-là, mais j'imagine qu'un comme dans l'autre, il va y avoir suffisamment de gens qui vont adhérer à ce chemin-là pour justement qu'on en bénéficie, là. Oui.
Ouais, ben effectivement, comme tu dis, là, il y a des gens qui sont vraiment contre Apple et qui n'adhèrent pas du tout à ça. Ceux qui adhèrent à ça, ils veulent probablement promouvoir, en fait, rehausser les fonctionnalités, la versatilité probablement, puis arriver à encore un meilleur produit. Je suis un adepte d'Apple, moi aussi. Moi, la technologie fermée, ça me fait pas peur. Le téléphone va très bien. Il fait exactement ce que je veux. Puis en passant, je suis pas développeur. Je suis en sécurité. Et puis, mon téléphone Apple, j'ai rempli amplement mes désirs, disons-le comme ça. Je suis pas effrayé du tout d'utiliser cet appareil-là. J'ai des gens dans mon entourage qui ont un Android. La facilité où les logiciels malveillants sont capables de s'insérer dans la chaîne d'approvisionnement des applications pour Android est tellement facile et simple. Malheureusement, je dis pas que Google a pas mis en place des mauvaises mesures, mais c'est encore quelque chose de beaucoup trop vert. Puis ceux aussi qui veulent faire des tests. Un test le samedi soir à 2h, après 15 bières, je serais pas surpris que partout sur la planète, ça se produit à toutes les semaines, qu'un téléphone Android cesse de fonctionner versus un Apple où le système est un petit peu plus fermé, permet justement de contrôler les gens dans un état second qui auraient des drôles d'idées après 15 bières.
Par exemple, mais du côté Android, quand même, pour donner du crédit de ce côté-là, certains téléphones Samsung ont une sécurité qu'on pourrait dire équivalente à ce qu'on trouve chez les iPhones. Mais encore là, c'est très inégal, ça dépend du fabricant, ça dépend de la saveur du OS qui est pris. Et on est dans un environnement où il y a moins de prévisibilité du côté d'Android que la prévisibilité que du côté de iOS. Mais après ça, rendu là, ça devient des questions philosophiques et politiques et de toute façon, chacun fait ses choix. On est tous des grandes personnes. Donc, on fait des compromis. Tu parlais justement du fait de vivre avec un environnement fermé. Moi non plus, ça ne me trouble pas de vivre dans un environnement fermé. Il y en a que pour qui ça dérange plus. À ce moment-là, il y a quand même l'option de choisir autre chose. Fait que, puis souhaitons que dans la même poulet, Google prenne cet exemple-là puis justement vienne offrir un programme qui permettrait aux gens. Ou en tout cas dans Samsung, parce que Samsung a des serveurs distincts de Android qui leur sont propres, justement viennent permettre aux gens d'aller tester ce genre de choses-là un petit peu plus loin que la normalité de ce que c'est. Ce qu'on serait facile que justement qu'un samedi soir, un peu en état d'ébriété, on ait des drôles d'idées qu'on casse notre téléphone, dans ce cas-ci, de casser la sécurité des 10 téléphones pour améliorer leur qualité. Bref. Passons à la nouvelle suivante. Dans ce cas-ci, c'est Emotet est de retour. Pour le côté très opérationnel de sécurité dans lequel je touche chez certains de mes clients, c'est pas une bonne nouvelle. L'automne passé, ça a fait une certaine difficulté qui a été rencontrée. C'était quand même certains éléments, il y a eu quelques ratés de certains, je pense, les corps de police, entre autres, qui ont été affectés par ça, certaines organisations privées et publiques qui ont été touchées, dans lesquelles ils ont perdu une à plusieurs journées de travail ou de fonctionnement TI, justement, parce que ces virus-là ont infecté leur environnement. Donc, c'est pas une super bonne nouvelle qu'ils reviennent. C'est parce que en plus, cette variante-là, elle était déjà plus sophistiquée à l'automne parce qu'elle utilisait beaucoup plus d'ingénierie sociale pour tromper les gens à cliquer sur les liens. Et en plus de ça, venait s'infiltrer, puis toute la chaîne d'exécution était quand même assez sophistiquée dans ce cas-ci. venaient souvent drainer les informations internes aux compagnies et les chiffraient par après. Fait que c'est un contexte un peu particulier, puis mettait même dans certains égards des points d'ancrage pour revenir plus tard. Donc, c'est des virus qui sont assez méchants, qui sont assez sans cœur, qui sont juste là pour faire de l'argent. Fait que c'est pas, en mon sens, pas une bonne nouvelle. Fait que j'imagine que plusieurs professionnels, surtout en plein mois de juillet, presque début août, que la plupart des gens sont en vacances. Il y a peut-être certains professionnels de sécurité qui vont devoir casser leurs vacances pour venir répondre à des incidents qui vont être liés à ce genre de choses-là, des propagations horizontales de ces virus-là. Dans ce cas-ci, c'est Microsoft qui a décelé cette nouvelle variante-là, fait que j'ose espérer qu'ils ont appliqué dans leur système de protection Office 365, là, M365 maintenant, toute cette protection-là que les compagnies vont pouvoir bénéficier de façon systématique, justement, pour éviter que ça vienne leur exploser en pleine face.
J'ai atteint mon niveau d'incompétence avec Hematet, Nicolas. Alors, tu peux passer à la nouvelle suivante.
Je vais passer.
Mais effectivement.
J'en profite, dans le fond, on va passer à la nouvelle suivante. Je vais passer à ta nouvelle sur Clearview AI qui ont encore des certains éléments par rapport à ça.
En fait, c'est un petit suivi je pense que c'est du dernier podcast qu'on a fait. Écoutez, j'avais parlé justement d'une photographe canadienne là, qui veut poursuivre la GRC. La GRC a utilisé justement l'application fournie par Clearview AI dans leurs enquêtes. Et puis, selon elle, Clearview AI, en fait, c'est plutôt Clearview AI qui devrait être poursuivi selon la chaîne d'approvisionnement de tous les événements. J'ai fait un petit suivi pour savoir où s'en était rendu. J'ai pas de suivi au niveau de la photographe canadienne qui veut obliger la GRC justement à détruire l'ensemble du contenu de l'application qu'ils ont utilisé, ben, malgré que la GRC a quand même résolu deux enquêtes là, qui concernent des enfants. Clearview s'est sauvé aux États-Unis, clairement sauvé. J'ai trois petites nouvelles ici. Je vais passer très rapidement. Là, présentement, il y a trois actions collectives, recours collectifs, pardon, qui sont intentés par l'État de Californie, l'Illinois et puis New York au niveau de Clearview AI, directement la compagnie. Et puis, à cause notamment qu'il aurait violé deux normes réglementaires aux États-Unis, deux actes qu'on appelle le CCPA, le California Consumer Privacy Act, qui est très, très sévère de ce que j'ai pu constater à ma lecture. Je ne connaissais pas justement cette réglementation, mais cette réglementation-là est assez insidieuse et baveuse. Elle n'est pas là pour rien. Moi, mon langage coloré, c'est pas que je ne l'aime pas, là, mais elle est très insidieuse, baveuse et restrictive. Puis il y a aussi le BIPA, le Biometric Information Privacy Act, qui provient de l'Illinois, celui-là. Alors, deux réglementations du pourquoi les recours collectifs proviennent de Californie et de l'Illinois notamment, où justement les avocats ont constaté qu'il y a eu des fameuses violations. Le lien va être dans les show notes. Je vais passer brièvement comment est-ce que, au niveau du recours collectif, on pourrait avoir du poids, justement, pour faire valoir, justement, nos arguments au niveau de Clearview AI, qui avait, au départ, que de bonnes intentions au niveau de leurs produits, malgré que la cueillette d'informations et les possibles mauvaises utilisations de leurs outils pourraient se faire. Malheureusement, puis en passant, il y a Twitter, il y a Google, puis il y a Instagram qui ont directement écrit au PDG de la compagnie pour détruire tout contenu qui avait été récupéré chez eux. Apple l'a fait, et puis je vous confirme que Apple, selon les dires dans le site, a été plutôt agressif parce qu'ils ont dit que si c'était pas fait hein, dans les 14 prochains jours, ça allait aller très mal justement pour cette compagnie-là. Alors, par exemple, comment les experts pourraient venir peser dans la balance là, pour venir démontrer que Clearview AI a pas été très éthique, puis je sais pas si vous avez vu le PDG, là, c'est une personne qui est très jeune, là, probablement moitié de mon âge et peut-être même moins, donc une personne probablement plein de bonnes intentions, qui a eu une très bonne idée, mais où l'application de son outil peut être extrêmement malveillant. Il y a un État, entre autres, qui dit que cet outil-là peut être éventuellement militarisé par des pays ennemis, ce qui amène un problème de sécurité nationale. Alors, par exemple, c'est le petit bout de la fun que j'ai envie de lire avec vous autres, là. Un expert en génie logiciel, donc un témoin expert en génie logiciel pour établir justement la compréhension de la techno sous-jacente au produit Clearview. Donc, des témoignages d'experts, des ingénieurs logiciels sont au cœur de la présentation des mécanismes de la construction de sa base de données d'images et du développement de son système biométrique. Donc, de comprendre un peu la mécanique pour savoir, pour en fait démystifier les intentions réelles de l'outil. Un expert en cybersécurité, pour ajouter un contexte supplémentaire aux implications de sécurité de la technologie de Clearview. Donc, leur témoignage pourrait élucider les dangers des logiciels de reconnaissance faciale trop facilement accessibles, justement. Donc, pourrait être utilisé par des tiers qui passeraient sous le radar pour poser des gestes malveillants. Un expert en application de la loi. Donc, en matière d'application de la loi, un expert serait serait essentiel pour comprendre les pratiques standards de services d'application en matière de technologie de reconnaissance faciale. Puis les experts, justement, en la matière, pourraient également se prononcer sur une utilisation appropriée de ce type de technologie, puis sur les implications d'une utilisation abusive pour les particuliers. Je voudrais rappeler que, par exemple, une personne très en moyen a ciment, justement, fait une petite apparition publique et a acheté les services de Clearview AI. En passant, ce n'est pas une application qui se télécharge quoi que ce soit. C'est vraiment ce qu'on appelle un service. On a un package, on paye. Là, on parle d'un monsieur, madame tout le monde, qui a une jeune fille d'une vingtaine d'années, qui fréquente un jeune homme, et puis il n'y avait pas d'affinité entre papa et gendre. Alors, papa a appelé Clearview, a payé les services pour épier justement son peut-être futur gendre, pour se rendre compte que c'était une personne d'intérêt de Californie qui avait justement des bonnes pratiques financières, etc. Donc, c'est un très bon parti pour sa fille. Fait que, d'un point de vue éthique, je sais, je suis un père de famille, puis oui, j'ai deux filles, puis je vous dis que je ne les ferai pas suivre. C'est pas vrai. Oui, je vais sortir le soir. Oui, j'ai mes petites cachettes. Oui, je vais probablement me faire des scénarios, mais bon. Je n'irai pas utiliser les services de Clearview AI. Et puis, écoutez, en termes d'experts en confidentialité, un témoin expert en protection de la vie privée pour ajouter, entre autres, un angle aux conséquences d'une utilisation généralisée du logiciel de reconnaissance faciale. Donc, on voit donc sa bonne utilité, on met des gens en prison. Pourquoi on ne l'élargirait pas? Hey, on peut-tu arrêter de mettre des caméras partout, de se faire filmer, que ça nous prenne en photo, que ça mette un nom à côté, qu'on ça se retrouve dans une base de données non protégée ou chez un fournisseur très bien protégé, mais avec un admin de base de données malveillant parce qu'il s'est fait congédier, qui récupère ça, puis qui pitche ça vous savez où, puis qui vend ça à vous savez qui. Come on, come on, come on, come on. Je pense qu'il y a des balises à établir. Je pense qu'il y a un contexte à établir. Je pense qu'il y a une... En fait, Ça fait des années qu'il y a des balises, un contexte qui aurait dû être établi. Mais là, je pense qu'il faut vraiment se poser la question. Souvenez-vous, podcast depuis là 2 ans, Cadillac Fairview en Alberta, qui est toujours en attente du commissaire à l'éthique de l'État, de la province, parce qu'ils ont mis des caméras, ils faisaient de la reconnaissance faciale, ils ont fait le même genre de travail qu'eux autres, mais à l'insu des utilisateurs. Écoutez, c'est votre biométrie, c'est votre vie. Vous devez être au courant, informé, puis deux, pouvoir choisir justement d'opter out. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est facile. C'est, on vous pose la question, voulez-vous qu'on vous prenne en photo, qu'on vous reconnaisse, oui ou non? Ou décaliste, tabarnak. C'est pas compliqué, là. Vous comprenez le message. Fait que Clearview AI, je ne sais pas où ça va se rendre. L'article date du mois de juin. Alors, c'est à suivre.
Effectivement, mais ça, oui. Ouais, ben c'est une très bonne nouvelle, puis ça revient souvent sur ce qu'on discute sur le podcast, sur l'importance, un, du choix. Puis c'est toujours la balance entre le bien public, c'est-à-dire tout l'usage fait par les corps de police, qui est légitime, qui est nécessaire, puis j'imagine que dans les contextes dans lesquels ça a été utilisé, ça l'a permis justement de sauver des vies ou de sortir des personnes de situations périlleuses. Ça, c'est une chose. Le problème, c'est que c'est jamais limité juste à ça. Ensuite, justement, t'as un papa qui est un peu trop invasif dans la vie de ses enfants, a voulu utiliser ça. Ensuite, sur quel prétexte où la ligne va se tracer? Fait que tu disais, oui, le père de deux filles aussi. Oui, je suis préoccupé. En même temps, autant toi que moi, on a vécu dans une époque où le degré de contrôle n'était pas très élevé. Par contre, nos parents nous faisaient une certaine confiance, nous encadraient un peu, nous chicanaient fort quand on dépassait les bornes. J'ai eu certains moments où je me suis retourné les oreilles parce que j'ai fait des choses que je ne fallait pas que je fasse. Mais ces épisodes-là ont permis de connaître justement baliser c'est quoi les bons ajustements, là, parce qu'on apprend en faisant des erreurs. Puis tous les adolescents vivent dans un univers où ils apprennent en faisant des erreurs. Fait, on est tous un peu comme ça. Fait que là, de dire ce que je vais faire suivre. Ouais, j'étais un peu inconfortable jusqu'à les faire suivre. Mais il faut faire un peu confiance à la vie, puis un peu confiance à la capacité des gens de prendre une décision éclairée. Puis c'est comme de. Puis ça reviendrait à dire, puis là, c'est là où on embarque dans une société de contrôle, puis là, c'est peut-être. Ça va chatouiller plus les gens, parce que c'est plus courant. Ça voudrait dire que toutes les automobiles seraient fichées et dès que tu dépasses la limite de vitesse, tu recevrais une contravention automatique parce que tu as dépassé la limite de vitesse ou tu as fait une action qui n'était pas dans le périmètre des règlements et des lois. Donc, est-ce qu'on est prêt à vivre dans un univers à ce point-là ou on est prêt à vivre dans un univers où on tolère une certaine quantité de gestes qui transgressent modérément, parce que tu sais, rouler 110 sur l'autoroute, c'est pas une transgression énorme, c'est pas un geste d'opposition ou de désobéissance sociale très fort, mettons, par rapport à d'autres choses. Fait qu'est-ce que, est-ce qu'on tolère, on ferme serré, est-ce que, c'est là, ça devient des choix de société à ce moment-là, puis. Ce qu'on peut voir dans l'histoire, les États totalitaires ont tendance à resserrer trop fort, ce qui n'est pas bon. Puis j'ai beaucoup foi en le système plus démocratique, plus ouvert dans lequel on est, qui laisse une certaine liberté aux gens de tester les limites, comme les enfants testent les limites dans l'apprentissage de ce qu'ils font.
J'ai un petit élément à rajouter. J'ai parlé de ça avec des collègues. Et puis, en passant, je crois au système de justice. Il n'est pas parfait. Ça, c'est vrai. Mais le système de justice fonctionne. Je crois aussi au corps policier, la formation que les enquêteurs ont. Un système comme celui-là, un élément, moi, qui me fait peur comme citoyen, c'est justement devenir... abrutir une compétence policière avec l'utilisation d'une technologie où, vous savez, je ne suis pas policier, Mais avoir des compétences en enquêteur, savoir comment avoir du jugement, saisir les gens, faire des entrevues, déceler le non-verbal, si on commence à se fier trop à l'intelligence artificielle, puis là, on parle pas d'intelligence artificielle, pardonnez-moi, on parle de reconnaissance faciale, un système qui met un nom sur une photo, OK? C'est soyons bêtes et méchants comme ça, de venir abrutir une compétence policière pour l'utilisation d'un tel système, où le système pourrait, à un moment donné, devenir défaillant, ben, si on veut s'en remettre justement aux compétences traditionnelles, ben, en ayant possiblement abruti cette compétence-là parce qu'on se fiait trop puis on avait trop d'espoir sur une telle technologie, moi, je t'inquiète, là. Je t'inquiète un petit peu, là. J'ai les forces policières... en Amérique du Nord, je pense qu'on a les formations sont similaires, les compétences sont similaires. J'ai besoin de savoir que le policier qui vit à côté de chez nous, il a une certaine compétence puis qu'il ne s'abrutit pas à rester assis dans son char puis à regarder son écran puis défiler des photos, pogner une adresse puis peut-être pogner justement un bandit quelconque. Là. Et je veux qu'il y ait un vrai travail d'enquête. Il n'est pas... je ne sais pas de quelle façon... Je ne sais pas de quelle façon la GRC a utilisé cet appareil-là dans deux causes, justement, d'enlèvement. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont fignolé pour dire qu'ils ont utilisé ça, qu'ils ont présenté ça à un juge, puis que le juge a dit « oui, c'est recevable en cours ». Je ne le sais pas, je ne connais pas la chaîne d'approvisionnement, mais j'ai pas mal plus de foi présentement à un policier qui va démontrer son approche, sa méthodologie, sa démarche, sa cueillette, ses interviews pour arriver à dire devant un juge, « Hey, avec toute la démarche que j'ai faite, oui, c'est long, mais ma démarche, elle est reconnue, mes preuves sont hors de tout doute raisonnables, etc. » Je ne sais pas comment avec Clearview, ils ont établi justement cette forme d'approvisionnement-là. Mais bon, ça pourrait être un autre débat.
Je suis entièrement d'accord avec ça. Puis c'est dans les choses justement que je soulève sur le fait que pour pas que ce soit un raccourci, ces technologies-là, c'est un support. Puis c'est dans plusieurs cas, c'est légitime, puis ils en ont besoin. Le seul enjeu que j'y vois, c'est juste que c'est un chemin de facilité. C'est un raccourci. Il faudrait pas que ça devienne une habitude de se baser sur un raccourci pour mener une enquête. Et justement, que toute cette compétence-là qui, que les enquêteurs, mais les policiers en général ont chacun des spectres de compétences particuliers dans leur zone particulière. Donc, perdre ces zones de compétences-là à profit d'une technologie qui limite ou fait le travail à leur place en bonne partie. Pour avoir côtoyé un certain nombre d'enquêteurs, feeling sur les gens, la lecture des gens, la relation entre les gens, la compréhension que les gens du fonctionnement, des milieux, tout ça, est, à mon sens, fondamental, est un fondamental, et ce qui les démarque, justement, un enquêteur d'une simple technologie qui fait le travail à leur place. Fait qu'au lieu de juste se fermer les yeux, puis comme juste, ça ne tente pas de travailler, je laisse cette technologie faire. Puis, dans le fond, c'est de transformer les enquêteurs en drones, ce qui est un peu, qui est énormément dommage, parce que ces gens-là ont une très belle compétence qui n'est pas désuète, puis que je ne crois pas que la technologie va rendre en désuétude, d'ailleurs. Mais qui doit être alimenté et amélioré avec cette technologie, non, et juste de laisser les yeux fermés. Puis ben, l'autre phase à ça, l'autre volet à ça, c'est on met cette technologie dans les maisons des policiers dans ce cas-ci ou services de renseignement, peu importe le corps d'emploi qui a accès à ça. Systématiquement, ils vont ne faire que ça. Là, ça voudrait dire qu'essentiellement, il faudrait un tiers parti neutre contrôle l'accès à cette information-là, en supposant qu'en tant que société, on a besoin de fonctionner, que ça améliore vraiment le style de vie, sans brimer les libertés individuelles. Et on a tendance à oublier rapidement nos libertés individuelles et justement notre capacité, puis là c'est là où c'est intéressant, notre capacité à manifester dans les rues pour des choses qui sont, selon le point de vue, peut être plus ou moins farfelues. On va prendre par exemple les gens qui sont contre les masques, ils ont le droit de manifester, on ne les empêche pas de manifester, on est dans une société de droit, ils ont le droit d'exprimer leur opinion, puis on a tous droit à ça. Par contre, on n'a pas le droit à chacun nos faits, mais ça, c'est un autre axe, mais dans le spectre des opinions, on a le droit d'exprimer librement ce genre de choses. Est-ce qu'on va brimer cet axe-là aussi? Fait que ça aussi, ça me rend très inconfortable, ça, puis l'humain est l'humain, hein, fait que... Oui, fait que ton chemin de tête confirme que l'humain est l'humain.
Oui, tu peux passer à la nouvelle, mon Nico.
Oui, puis les trois nouvelles suivantes sont des nouvelles un peu plus quick, avec un peu moins d'intensité d'émotion qu'on a dans nos premières. Microsoft a annoncé qu'ils vont délaisser TLS 1 et 1.1 en octobre de cette année. Ils ont retardé un peu le fait de délaisser dans leurs produits. C'est conscient que le COVID a comme perturbé un peu le fonctionnement des compagnies, mais ça n'empêche pas que ça va être délaissé. Il y a plusieurs compagnies qui ont aussi des démarches de rehaussement par rapport au TLS. Apple a réduit le temps de validité et ainsi de suite. Fait que tous ces éléments-là viennent influencer comment les services fonctionnent. Ça va mettre en même temps un peu plus de pression à l'interne des compagnies qui, en tout cas, de mon expérience, j'espère qu'elle n'est pas représentative de 100% de l'univers. La gestion des certificats TLS ou SSL n'a jamais été très, très assidue dans les différents endroits que j'ai vus. Parce que pour bien des gens, c'est une douleur. Puis cette douleur-là, ben, elle est reléguée parce que ça ne nous tente pas de la gérer. Toutes ces actions-là qui sont faites dans ce cas-ci par Microsoft, il y en a qui sont faites par Apple, il y en a qui sont faites par Google, Firefox aussi en fait un certain nombre, amènent à devoir rehausser nos pratiques. Dans certains cas, c'est même plus possible d'accepter des certificats auto-signés. Donc, il y a certains navigateurs qui refusent littéralement ou faut que tu saisisses ton mot de passe pour pouvoir réussir à avoir accès à un certificat auto-signé. Toutes ces pratiques-là de raccourci de vitesse, ben, vont devenir de plus en plus difficiles à vivre. Fait que les gens en opération qui ont pris des raccourcis, je pense que ça va leur mordre les mollets dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, là, considérant que toutes ces grandes compagnies-là viennent rehausser le jeu. Là. C'est plus compliqué d'aller appuyer sur ton piton sur ton iPad pour te démuter. Hein, je vais te laisser cette nouvelle-là. Je vais basculer sur la suivante tout de suite.
Non, vas-y.
Qui est F5, il y a beaucoup de machines, dans ce cas-ci, c'est des WAV, des balanceurs de charge, ces choses-là, les équipements de F5 qui ont été, il n'y a eu qu'une vulnérabilité qui est déjà quand même quelques semaines, qui n'a pas été patché à une bonne vitesse. Fait que les équipements qui sont visibles sur Internet sont vulnérables jusqu'à certains cas à la compromission complète du dit équipement. Donc, si vous avez des équipements de cette nature-là patchés, mais de toute façon, l'ensemble patché. N'attendez pas genre 3 ans avant de patcher le plus vite possible parce que ces vulnérabilités-là sont importantes. Dans ce cas-ci, ben, celle-là elle vient compromettre complètement le système de protection et de balancement de charge des services qu'on offre à la clientèle, tout dépendant dans quel genre de compagnie vous travaillez. Donc, dès lors, ça crée un certain nombre de problèmes associés à ce genre de choses-là. Puis la dernière nouvelle, c'est exactement la même chose avec les NAS QNAP qui ont connu, puis ça fait déjà plusieurs mois que ça traîne, puisque c'est souvent dans des lieux résidentiels, les gens ne mettent pas à jour ou rachètent des vieux équipements QNAP, prennent pas le temps de faire la pleine configuration de sécurité. Soit ils achètent des équipements qui sont déjà infectés, ou les équipements infectés qui ont été désinfectés se retrouvent à être réinfectés parce que le problème qui a causé la faille de sécurité n'a pas été réglé. Donc, l'équipement se retrouve à être de nouveau réinfecté et réutilisé par les malveillants. C'est toujours patché. Patchez, n'attendez pas 6 mois, faites ça le plus vite que vous pouvez. Le malveillant n'attendra pas votre fenêtre d'opportunité pour aller frapper dans votre système. J'avais vu justement un tweet cette semaine là, où là, justement, il y a eu un cri du cœur d'un professionnel de sécurité qui dit le cri du cœur, c'est qu'il se fait défoncer ses équipements chez son employeur. Les malveillants n'attendent pas, ne suivent pas nos procédures, ne suivent pas nos processus, se foutent bien de nos fenêtres d'intervention. Les mises à jour, eux autres, c'est en sac, là. Puis même ils espèrent qu'on les fasse le plus tard possible. Donc, tous ces éléments-là sont quand même importants, on le rappelle. Je le rappelle régulièrement, mais les gens...
C'est un éternel négatif. Arrête! Les malveillants ne se foutent pas du tout. En fait, ils s'en foutent pas en tout de nos fréquences, justement, de patchage, etc. Ils les étudient, ils les connaissent. Écoutez, là, je sais pas pour qui vous travaillez. Je sais pas où c'est que vous travaillez. Je sais pas c'est quoi l'incidence d'un arrêt de service, justement, pour l'aval du patching, appelons ça comme ça. Mais tout le monde le sait, là. Le Microsoft propose un calendrier. Basez-vous donc pas là-dessus, ce calendrier-là. Les pirates le connaissent. Autrement dit, s'il y a des vulnérabilités déclarées, dès qu'elles sont disponibles, comment ils appellent ça, Microsoft, le Tuesday Patching? Écoutez, dès que c'est disponible, attendez pas. Le malveillant, lui, il écoute les GAFAM, justement. Il écoute les géants, il écoute les Cisco, les Checkpoint, peu importe. Ils savent un petit peu la fréquence, la proposition du calendrier. Écoutez, attendez pas. Quand c'est disponible, c'est disponible. Faites-la la valse. Sinon, venez pas pleurer. Parce que la valse, souvent, la valse, elle est publique, là. Puis les personnes malveillantes, comme Nicolas disait, puis je veux pas bâcher Nicolas Panto, tout peinturé dans le coin, ils s'en foutent pas, ils connaissent. Fait qu'ils vont vous tester. Puis si vous suivez ce calendrier-là, c'est pas compliqué. Ils vont vous backstabber, puis c'est pas long que le pagette va sonner. Mais si le pagette sonne pour ça, mon Dieu, ne vivez pas. Il est trop tard, c'est pas compliqué, là. Attendez-vous lundi matin, puis rentrez tranquille au bureau, puis... mais bon.
Ah, effectivement, mais ça revient toujours... Puis le patchage, c'est très important, là, mais c'est une des mesures dans un ensemble de mesures justement qui nous permettent de se protéger contre les malveillants. Mais de toute façon, ça, j'utilise énormément dans mes présentations. J'ai une image avec un Jésus qui court sur l'eau en compétition avec des nageurs pour montrer à quel point les règles du jeu sont inégales. Fait que les malveillants ne suivent pas nos règles. Ils se foutent justement de nos règles. Ils étudient, comme tu dis. Mais ils s'en foutent dans le sens où c'est pas parce qu'ils n'ont pas signé le formulaire A32 pour obtenir les erreurs d'accès. Ils vont défoncer nos systèmes. Whatever ce qui se passe. Bref. Patchez, mettez défense en profondeur, zéro trust, si vous êtes capable d'aller jusque-là. Défendez vos systèmes correctement, gestion des accès. Gestion d'accès, ça, je sais que ça t'interpelle un peu plus. Faites ce que vous pouvez.
Faites votre vigie. Puis en passant, soyez créatifs. Soyez des artisans. Les Black Hat, justement, là, appelons-les comme ça, là. C'est des artisans, justement, de la cybersécurité. Mais ils ont un objectif qui est plus obscur que de protéger les données. Fait que soyez des artisans, vous aussi, là. Mais effectivement, je lisais un article aujourd'hui sur la valse du patchage, là, puis C'était un petit cri du cœur qui disait, ben là, attends, ça suffit les calendriers fixes, là. J'ai dit, faites-le aléatoire, mais du moment que c'est disponible, là, puis attendez pas, puis faites-le à votre vigie, puis soyez créatif.
Ouais, puis c'est, oui, créatif. De toute façon, les compagnies vont devoir s'adapter puisque la très grande majorité des compagnies basculent en info nuagique et les fournisseurs info nuagiques, eux autres, là, la machine à l'avance. Que tu sois prêt ou pas prêt, là, eux autres, ils migrent. Ils mettent à jour, ils corrigent, ils rendent disponible. Fait que si t'es pas prêt, juste tant pis pour toi.
Sais-tu, dernièrement, là, je regardais ça, on utilise. Tu parles de... Parlons des principaux services d'info nuagique. Eux autres sont fantastiques. Première des choses, ils nous avisent. Ils nous avisent 2-3 semaines à l'avance. Hey, cette semaine-là, on patch. Savez-vous quoi? Vous avez peut-être des API. Vous avez peut-être des modèles de com qui ne fonctionneront plus après le patchage. Mais ils vous ont avisé. Ils ne patchent pas pour rien. Ils ne veulent pas, justement, se pencher par en avant. J'utiliserai pas le mot coloré qui vient par après, mais ça c'est un signal d'alarme, là. Ça veut dire, préparez-vous, là. Voici ce que ça comporte. Faites-le à votre vigie. Vous voulez utiliser ces services-là? C'est pas compliqué. Ils se mettent à jour. Il y a des fournisseurs, c'est un par semaine. Un par semaine, puis des fois, c'est juste une décompilation, recompilation, mais il y en a beaucoup, c'est un par semaine. Quand il y a des nouveaux features, ils sont affichés. Ils vous avisent, organisez-vous pour vos affaires match, puis organisez-vous pour que ça soit en adéquation avec le rehaussement possible, justement, de la sécurité qu'ils veulent appliquer, puis pour que vous puissiez en bénéficier. Fait que la vie va vite, le patchage va vite, la technologie va vite, les pirates vont vite. Écoutez, perdez du poids, faites de la course, achetez-vous un treadmill.
Les pirates vont où il y a de l'argent. Physique,
mais... C'est ça. Allez plus vite qu'eux autres. Là. Vous êtes des artisans, justement, de la sécurité. Là. Faites-vous plaisir.
En plein ça, effectivement, on a plein de capacités, plein d'outils. Puis, je sais, pour plusieurs, on a accumulé une tonne d'outils de sécurité avec les années dans les différentes compagnies dans lesquelles on a été. Utilisez-les au maximum de leur capacité, mais vraiment, vraiment au maximum. Puis, soyez imaginatifs. J'aime bien ça le mot artisan. Puis, oui, effectivement, soyez imaginatifs parce qu'on a autant dans le monde du source ouvert que dans le monde commercial, des outils excellents à notre disposition. Il faut juste se servir un peu de notre tête, faire un peu d'effort. Puis on a quand même des choses assez funky dans les mains dans lesquelles on peut avancer. Moi, ça terminerait l'épisode test de nouvelles façons d'enregistrer qu'on a testé. So far, ça a bien marché. On verra à la post-production si c'est aussi concluant que le parlant. Vincent, je sais que t'aimes bien, t'es très coloré dans ton mot de la fin.
Dieu, fait je
que...
vais encore tirer devant l'autobus. Oui, écoutez, je vais...
oui, parce que c'est coloré ce que tu sors.
Je vais remettre mon fameux terme d'asseoir, là. Soyez des artisans. Soyez innovateurs. Soyez artistes, là. Écoutez. On parlait de patchage. Faut être rapide. Vous êtes aux opérations, là. Là, je me mets en mode... vous êtes aux opérations, vous êtes à la vigie, vous êtes les premiers répondants. Soyez artisans. Trouvez une méthode pour... Trouvez-vous des alliés, puis une méthode pour convaincre justement vos dirigeants d'en faire des interruptions de service. Souvenez-vous, parce que moi, je m'en souviens, souvenez-vous du Palladium ou du Dagobert ou du Showbar. Il y a un Marie-Antoinette qui était en bas de la côte de l'aéroport. On sortait le dimanche, peu importe les trois bars, c'était 2-1. Mais entre 3h et 5h, Desjardins faisait une maintenance sur son hostie d'HP non-stop qui stoppait pendant 2 heures de temps qu'on voulait payer avec notre carte. Hey, je vais en faire rire une couple, là. Vous savez que vous allez vous douter de l'âge que j'ai. Y a-tu de quoi de plus chiant que ça? Ben, savez-vous quoi? Oui, c'est chiant. Desjardins a probablement acheté un deuxième pour qu'il roule en redondance. Mais c'est le temps de patcher. C'est important. Trouvez-vous des moyens, trouvez-vous des méthodes, trouvez-vous des alternatives, trouvez-vous des arguments. Vous livrez un service pour la plupart à de la clientèle externe. Fait que vous en avez un paquet d'arguments là, pour patcher. Alors, amusez-vous, puis God save the Palladium.